Je voudrais partager avec vous au sujet du repas que le Seigneur nous propose, le repas que nous prenons ensemble, la nourriture de Dieu. Dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 46, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voilà, il est question d'une maison, d'un propriétaire, d'un maître. Il est question d'un serviteur. Dans une autre parabole, il est dit un économe. Il est question d'un besoin, le besoin de nourriture. Alors cette maison dont il est question, c'est la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Bien sûr qu'il y a des maisons où voilà, le propriétaire, et surtout dans l'époque où Jésus parlait, présente cette parabole, eh bien, il y avait le maître de maison qui avait beaucoup de serviteurs. Et puis, il en établissait un en particulier pour diriger la maison. Vous savez que Joseph, en Égypte, a été placé comme économe, comme responsable de la maison de Potiphar, et il avait toutes les autres sous son autorité, alors qu'au départ, il était un esclave comme les autres. Il fallait prendre soin de cette maison, et il faut effectivement prendre soin de la maison de Dieu et donner la nourriture au temps convenable. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il est dit que, voilà, nous... L'apôtre Paul instruit Timothée, il le dit, « Afin que tu saches, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église de Dieu forme une maison, l'Église du Dieu vivant. Nous formons une maison spirituelle et... Nous avons besoin de recevoir notre nourriture. La nourriture, c'est le besoin fondamental. C'est un besoin qui traverse toute l'Écriture, qui est dès le départ mis en évidence. Et aujourd'hui, ça reste, et jusqu'à la fin, cela restera pas seulement une question de besoin vital, physique, mais quelque chose de plus qui passe à travers ce besoin de nourriture. Et le Seigneur, notre Dieu, est concerné par notre nourriture, et en fait, nous la recevons de sa main. Hein, il est écrit dans le psaume 145, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » D'ailleurs, au psaume 104, même les animaux attendent de Dieu leur nourriture. Et il la leur donne. Dieu produit et procure la nourriture. C'est Dieu qui fait croître, dit l'apôtre Paul. Dieu produit, procure la nourriture. Nous ne faisons qu'organiser la répartition. Que ce soit les cultures, les récoltes, la vente, etc., tout cela, ce n'est que de la répartition de l'abondance que le Seigneur produit en notre faveur, de tous les biens, de toute la nourriture qu'il met à notre disposition dans sa création. Et il y a donc des serviteurs pour... Nous sommes les serviteurs du Seigneur pour... Dans le monde, dans la société, donc récolter, préparer, donner cette nourriture. Et puis dans l'Église, c'est le même principe. Dieu confie la responsabilité à plusieurs, à l'un, ici c'est à l'un, mais ça peut être à plusieurs, de dispenser sa nourriture, la nourriture que lui a préparée pour ses enfants. Et il choisit, donc parmi ceux qu'il a rachetés, parmi les simples chrétiens, les simples fidèles, certains à qui il donne cette charge. Et d'une manière générale, c'est à l'Église, tout simplement, qu'il donne la charge de nourrir ses enfants, de leur donner la nourriture spirituelle. Dans une autre parabole semblable, dans Marc 13, il est dit que le maître qui s'en va donne à chacun sa tâche. Alors, nous avons dans l'Église à chacun notre tâche, chacun les dons, chacun les capacités que Dieu nous a données de vivre ensemble et de témoigner ensemble de sa grâce. Mais ici, dans cette parabole, bien, c'est plutôt à l'un d'entre eux qui est mis en évidence pour donner la nourriture, et celui-là doit être trouvé fidèle. Le besoin spirituel pour la maison spirituelle demande des hommes fidèles. Serviteurs fidèles de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus veut et a décidé de donner à son Église, des serviteurs et des servantes pour donner sa parole, donner la nourriture spirituelle. Et ces serviteurs, il s'attend à ce qu'ils soient fidèles pour donner la nourriture en son temps. Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Moïse, il est dit, donc dans Hébreux au chapitre 3, Moïse est pris en référence. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Déjà là, c'était la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a été ce serviteur fidèle pour transmettre la parole de Dieu. Et pour ce qui concerne l'Église du Seigneur, il y a un autre grand serviteur, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, donc nous lisons « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Moïse a été fidèle, l'apôtre Paul a été fidèle pour dispenser les mystères de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui devait être annoncé. Ces hommes ont été fidèles à leur tâche et c'est ainsi que l'Église a pu être édifiée, que le peuple de Dieu a pu être édifié et que l'Église a pu être édifiée. Et c'est le même principe actuellement. Dieu procure, donne sa parole et il charge ses serviteurs, et j'ajoute ses servantes, de dispenser cette parole d'une manière fidèle, de la distribuer, de permettre que le peuple de Dieu soit nourri des paroles de son Seigneur. Alors il y a un aspect particulier de l'Église qui est une maison, et dans toute maison en fait, à certains moments et en particulier pour donner la nourriture, on regroupe la maisonnée. On regroupe la maison, on s'attable et on mange ensemble. Une maison, une famille, une maison dans laquelle chacun mangerait de son côté, ça fait quand même bizarre. Ça arrive que pour les circonstances, etc., à cause du travail, des études, etc., vite, on prend un sandwich, on va manger. Mais on aspire à ces temps où l'on est réunis pour manger ensemble. Et c'est le cas dans l'Église. Nous recevons, préparons, partageons la nourriture ensemble. Je voudrais rappeler une évidence, parce que elle me tient à cœur, dans Actes, c'est tout le chapitre 2 des Actes des apôtres. Mais voilà comment commence ce chapitre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est là, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, on aurait pu imaginer, rétrospectivement, on pourrait imaginer que les chrétiens, c'était... les disciples de Jésus, on ne les appelait pas encore les chrétiens à ce moment-là, les disciples de Jésus s'étaient dispersés dans leur maison, et puis que le Saint-Esprit vienne partout là où ils étaient, et puis les remplisse et commence son œuvre. Eh bien non, ce n'est pas ainsi que ça s'est produit. C'est alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et là, il y a eu le don du Saint-Esprit, il y a eu la prédication de la parole de Dieu, il y a eu un effet d'unité et de partage qui se traduit donc sur la fin du chapitre, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce chapitre 2 du livre des Actes des apôtres dit tout le programme, toute la façon d'agir du Seigneur pour son Église et tout le résultat de la venue du Saint-Esprit. Au verset 33, donc il est dit aussi, et une grande. Au chapitre 4, verset 33, une grande grâce reposait sur eux tous. L'unité, jusque dans le partage de la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cela aurait été impossible sans le don du Saint-Esprit, sans la parole de vie, sans le pain de vie. Parce que la première nourriture, le premier partage, c'est bien entendu le pain de vie. C'est Jésus qui s'est donné pour nous, et c'est Jésus ici, à travers le Saint-Esprit, qui se donne à son Église. Vraiment, il nous faut laisser le monde rebelle, le monde incrédule, le monde moqueur, et recevoir Jésus. C'est le témoignage de Jérémie. Dans son chapitre 15, le prophète Jérémie parle au Seigneur à partir du verset 15. « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. » Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Je me suis assis solitaire, je me suis assis à part, dit Jérémie, je me suis écarté des moqueurs et j'ai reçu tes paroles. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Eh bien, c'est la position des chrétiens, c'est la position de l'Église qui se tient à l'écart maintenant de ce monde pécheur, de ce monde moqueur, de ce monde rebelle, qui se met à l'écoute des paroles du Seigneur, qui recueille les paroles du Seigneur, qui sait que le nom du Seigneur est invoqué sur elle et qui maintenant veut se tenir dans la présence du Seigneur pour recevoir ses paroles. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Les paroles de Dieu pour le cœur. Moïse avait donné les paroles de Dieu sur la montagne, mais il avait aussi donné la manne qui est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et qui nourrit les âmes. Alors Jésus, dans son corps de chair, a lui aussi reçu les paroles de Dieu pour les accomplir. Quand Jérémie dit « J'ai reçu tes paroles, je les ai dévorées », combien cela s'applique à notre Seigneur Jésus ? « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les paroles de Dieu étaient si puissantes en Jésus que ce sont elles qui l'ont porté à donner son corps pour que cette parole vienne, puisse prendre vie en nous. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra par moi. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les paroles de Dieu, la volonté de Dieu sont passées à travers Jésus, ont été reçues, mises en œuvre par Jésus dans son corps de chair. Et de là, la parole de vie peut nous être donné à nous, le pain de vie. Et à ce moment-là, ceux qui reçoivent Jésus comme parole de Dieu, comme pain de vie, comme la vie de leur âme, eh bien, se plaisent eux aussi à recueillir les paroles du Seigneur, les paroles du Père Céleste. Elles font également la joie de leur cœur. Autant que pour le prophète Jérémie, lui, il les recevait à l'avance, avant l'incarnation de Jésus, mais maintenant que Jésus est venu dans la chair et qu'il a vécu pleinement et fait accompli pleinement la volonté de Dieu, eh bien ces paroles nous sont dispensées à nous et elles viennent faire la joie de nos cœurs pour nous délivrer de toute notre ignorance, notre erreur. Et comme Colossiens le dit, l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, 27, « Pour nous faire connaître le mystère de Dieu, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Voilà le but des paroles reçues par le Saint-Esprit, le but des paroles de Dieu. Faire Christ en nous, nous faire connaître le mystère de Dieu, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc c'est la raison et le cœur de notre réunion. Et c'est constitutif à la vie de l'Église. L'Église est réunie pour recevoir la parole du Seigneur. Nous nourrir ensemble de Jésus-Christ et de ses grâces. Jésus qui est vivant, qui est auprès du Père dans les cieux, dispense des cieux les diverses grâces de Dieu. Il établit la volonté de Dieu au milieu de nous et c'est une Voilà, une joie, une réjouissance, une attente pour nous de voir Dieu au milieu de nous, convaincre, bénir, sauver, délivrer. Nous nous réjouissons ensemble de partager cette révélation de Dieu en Jésus-Christ et donc de nous nourrir de la présence de Jésus et de toute son action de délivrance et de salut. Partager ensemble la nourriture sainte, la nourriture spirituelle, c'est le but de notre rassemblement qui se traduit concrètement par la scène au cœur du culte. Alors, ces dernières années, j'ai envie de poser la question, est-ce que nous mangions bien ? Est-ce que nous mangions une nourriture bien préparée ? Est-ce que nous mangions équilibré ? Est-ce que nous mangions à satiété ? Est-ce qu'il n'y avait pas l'attrait d'autres nourritures qui remplissaient nos estomacs et qui empêchaient que nous nous nourrissions de la parole du Seigneur ? Parce que bien sûr, quand l'estomac est occupé déjà, comment manger en plus ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nourrissait vraiment nos cœurs ? Je laisse à chacun répondre. Pour les années précédentes. Mais nous n'en sommes plus là. Parce qu'entre-temps, nous avons été empêchés de manger ensemble. Avec cette circonstance qui est survenue dans la vie de l'humanité. Nous avons été réellement empêchés. Empêchés de prendre le repas ensemble. Concrètement, nous n'avons pas pu prendre la scène pendant un certain temps. Mais nous n'avons pas pu nous réunir donc pour partager nos intentions, pour partager notre foi, pour nous exhorter mutuellement. Alors, pour ceux qui, dans les années précédentes, prenaient ce repas spirituel avec joie et simplicité de cœur, je pense que ça a dû être une vraie frustration que d'être privé de ce moment. Si là, il n'y a pas eu de frustration, c'est que peut-être certains étaient tellement bien nourris qu'ils ont supporté un jeûne prolongé. Ils étaient remplis et cela leur suffisait. Et pendant un mois, deux mois, ils se sont, on peut dire, réjouis simplement d'avoir en eux toute cette réserve que le Seigneur leur avait donnée, cette réserve d'amour, cette réserve de connaissance, cette réserve de sagesse, cette réserve d'espérance. Et ça a pu peut-être leur suffire. Mais d'autres n'ont peut-être pas constaté que la nourriture spécifique de l'Assemblée leur manquait tant que cela. Et donc, au fond, elle n'était peut-être pas si consistante. Si, après tout, manquer, ne pas pouvoir se rassembler, ne pas pouvoir étudier la parole ensemble, ne pas pouvoir prier ensemble, ne vous a pas manqué, c'est peut-être que, tout simplement, avant cette période de confinement, il y manquait quelque chose à cette réunion d'assemblée. Peut-être, est-ce que je dois m'interroger moi-même là-dessus. Bien sûr, quand je parle de cette nourriture, j'évoque bien la façon d'apporter Jésus à travers nos méditations et nos relations fraternelles, parce que c'est la parole proclamée, mais c'est aussi la parole vécue entre nous. Et voilà, c'est Jésus. De toute façon, c'est toujours Jésus qui est le centre et le cœur de notre partage. Enfin bref, je ne sais pas comment vous avez expérimenté cette circonstance. Ce que j'espère, c'est que vous avez quand même pu apprécier quelques plats qu'on a livrés à domicile, n'est-ce pas, quand même. Ou que ceux que vous avez commandés par ailleurs, étaient de bonne qualité, puisque je suppose que vous aviez quelques officines auxquelles vous adressez pour recevoir aussi cette nourriture spirituelle. Surtout, j'espère que vous n'êtes pas tombé sur des viandes avariées qui vous ont rendu malade. C'est possible, ça, hein? Mais enfin, pendant ce temps-là, je pense que normalement, vous deviez être en mesure de mijoter vos propres plats. En prenant vous-même les ingrédients de la parole, cuisinés au feu de la prière, avec aussi le sel du désir de les faire goûter à vos frères et sœurs dès que possible, ou même en les appelant et en leur partageant ce que vous viviez avec la parole de Dieu. C'était aussi, je pense, c'était la meilleure façon de traverser cette période. Parce que mijoter les petits plats, c'était très, très, très... Le moment, hein, pendant ce temps de confinement, beaucoup d'émissions de télévision en particulier, etc., étaient axées sur le fait de se préparer la nourriture, etc. Bon, il fallait occuper voilà, donner un sens à ce moment, donner un sens à ce moment, beaucoup, voilà, il y avait quelques grands chefs qui donnaient leurs recettes, etc., etc., pour, voilà, se mijoter quelques plats et se faire du bien. Eh bien, j'espère que pour vous, spirituellement, ça a été le cas, que vous avez pu agir de cette manière. Mais voilà, c'était un temps que nous pensions hors du temps, mais qui cependant était réellement dans le temps et les circonstances du monde présent. Là, c'est une épidémie, comme il y a des temps de disette, des guerres, de révoltes, des phénomènes climatiques qui peuvent tout bouleverser, qui peuvent mettre les gens à l'écart, qui peuvent séparer, et tout, etc. Ce sont les temps et les circonstances du monde, tout simplement. Sans parler des temps de persécution extrême, bon, la persécution fait partie de la réalité de la vie de l'Église en tout temps, mais il y a aussi des temps particuliers de persécution extrême de l'Église qui aussi donc interdisent aux chrétiens de se réunir, d'être ensemble, de partager librement la parole du Seigneur. Alors nous avons traversé ce temps, et il n'est pas clos. Et je crois que Dieu nous fait la grâce qu'il ne se termine pas brusquement. Il en fait la grâce à la société, il en fait la grâce à l'Église aussi. Pour la société, je laisse de côté. Mais pour nos églises, comment allons-nous mettre la foi en œuvre dans une situation nouvelle? Vendredi, je citais l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve et en toutes circonstances à savoir être rassasié, à savoir avoir faim dans les temps de disette, dans les temps d'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Eh bien, j'ai appliqué cela, et je pense que c'est tout à fait légitime de l'appliquer à la situation présente. Je puis tout par celui qui me fortifie, je peux vivre pleinement la foi en Jésus-Christ, l'espérance chrétienne, dans ce temps où nous pouvons, où nous devons être masqués. Je sais vivre avec Christ en étant masqué, comme j'ai vécu avec Christ sans être masqué pendant des années. C'est une circonstance particulière qui ne m'empêche pas d'appartenir et de glorifier mon Seigneur. Donc, comment allons-nous mettre la foi en œuvre, la foi, l'espérance, l'amour, pour nous rassasier ensemble de Christ et le donner aussi à manger à la foule qui attend encore sa révélation. Je vous rappelle l'espérance d'Ésaïe au chapitre 25, versets 6 à 9. C'est la grande espérance qu'on a entendue tout à l'heure dans le chant, hein. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. La notion de salut, de victoire sur la mort, est associée à la notion de festin que Dieu nous prépare. Je prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle devient vieux clarifié. Par la révélation de Jésus-Christ, bien sûr que ce festin est déjà à notre portée, le voile est ôté. La révélation de l'amour, de la grâce, de la puissance de Dieu, de la victoire sur la mort est déjà faite. Et donc nous partageons déjà une part de ce festin de la connaissance de Dieu et de ses enfants, de tous les enfants qu'il a sanctifiés. Et c'est pourquoi d'ailleurs notre repas n'est pas seulement spirituel, parce qu'il ne concerne pas seulement la connaissance de Dieu, il concerne aussi la connaissance des autres enfants de Dieu, de nos frères et sœurs. Par conséquent, il se traduit aussi dans des agapes, hein, par la forme des agapes. Les agapes ont toujours été, dès l'origine, c'est ce qu'on a lu dans Acte 2, mais ensuite c'est traduit dans différentes épîtres. Les agapes ont toujours été une des manifestations donc, de la foi et de la fraternité chrétienne. Donc ce n'est pas seulement un repas spirituel, c'est aussi un repas fraternel, un repas même donc physique également. J'ai relevé que dans Acte 10:41, Pierre signale que donc le Seigneur n'est pas apparu à tous, mais à nous, dit-il, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Nous avons mangé, et ils n'ont pas seulement mangé avec le Seigneur avant, mais après sa résurrection, ils ont mangé et bu avec le Seigneur. Je pense que ça veut dire que eh bien, le Seigneur est aussi avec nous lorsque nous mangeons ensemble, lorsque nous partageons le repas, les agapes, les temps de fraternité, et il est là pour nous entretenir de la vie nouvelle que nous avons en lui. Alors, bien entendu, il peut arriver un problème avec les agapes, c'est qu'elles deviennent charnelles, comme toute activité que nous faisons, et lorsqu'elles deviennent charnelles, elles sortent de leur raison d'être spirituelle. Il y a toujours dans les agapes une dimension spirituelle qui doit demeurer. Lorsqu'elles restent, qu'elles deviennent uniquement charnelles, eh bien, elles perdent leur sens et même elles peuvent aller à l'inverse de ce qui est attendu. Hein, vous savez ce que Jude en particulier dit au sujet de ceux qui sont des écueils dans vos agapes, dit-il, qui se repaissent eux-mêmes. Bien entendu que nous n'allons pas demander la grâce, bien sûr, de ne pas tomber dans ce genre d'excès, mais voilà, partager ensemble la vie spirituelle, c'est aussi partager le repas ensemble, et que le Seigneur nous accorde ces temps où nous pourrons nous retrouver tous ensemble, de toutes nos origines. Alors, je terminerai en Luc 14, cette expression qu'a eue quelqu'un qui écoutait le Seigneur en train de parler. Verset 15. Jésus était en train justement d'instruire au sujet de recevoir à sa table, hein, ne pas seulement recevoir des amis, des voisins, etc., mais recevoir le pauvre, l'estropié, le boiteux, l'aveugle, et tu seras heureux qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil. Vous voyez, il ne s'agit pas de simplement vouloir se contenter soi-même en organisant un repas, mais d'être dans cet esprit de partage et même de secours parfois. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouves, contrôle-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Alors, je passe sur ceux qui ont décliné l'invitation, mais je rappelle que le Seigneur nous lance encore pour inviter tous ceux qui peuvent encore entrer et participer au repas dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est l'aspect vraiment de l'évangélisation de l'Église. Faire entrer tous ceux, de quelle que soit leur condition. Dans le prophète Ésaïe, il était question de tous les peuples. Et ici, il est question de toutes les conditions. L'Église, c'est bien cela. C'est tous les peuples et les gens de toutes conditions qui sont appelés à croire, à mettre leur confiance au Seigneur Jésus, à se rassembler et à se préparer pour le temps du royaume et prendre son repas dans le royaume des cieux. Alors que le Seigneur vous accorde cette grâce, déjà de vivre ensemble la fraternité dans le partage de la foi et d'en amener d'autres à cette connaissance, de sorte que les locaux de l'Église soient trop petits pour les accueillir. Et là, on verra ce que le Seigneur nous permettra de faire. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous a placés sur la terre et qui nous a promis qu'il répondrait à tous nos besoins et qui, lorsqu'il a promis la vie éternelle, a donné son propre Fils pour qu'ils deviennent notre nourriture, notre joie, notre salut. Seigneur, sois béni et glorifié. Je te demande d'accorder à mes frères et sœurs ici un esprit de joie et de simplicité dans la foi pour partager tous tes dons et bienfaits, Seigneur, qui nous viennent de toi. Amen.